quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
Vos enfants comptent les jours jusqu'à Noël et vous décomptez ensemble les dodos avant le réveillon. Eh bien, maintenant que l'heure des vacances a presque sonné, et si vous lui racontiez, si vous leur racontiez les plus beaux contes d'hiver et de Noël? Casse-noisette, la petite fille aux allumettes, les contes de Charles Dickens, mais pas que. Une des fonctions essentielles, en tout cas, du conte, serait d'imposer une trêve au combat des hommes, disait un certain Daniel Pénac. Alors voilà la question que nous nous posons tout simplement ensemble cet après-midi. Et si on se préparait à Noël en se plongeant dans les contes, je vous propose de vivre cette expérience avec mes trois invités du jour, qui sont Isabelle Chevillard. Bonjour Isabelle.
Bonjour Marianne.
Alors vous êtes maman de combien d'enfants?
8.
Alors vous, vous reviendrez. Hein.
Quel beau travail.
Waouh, chef d'entreprise, moi je dis, quand ça dépasse 4, là c'est quand même du lourd. Peintre que vous êtes en plus, créatrice de l'atelier Sonner les Matines, vous avez à cœur de transmettre la foi par vos illustrations, par le sens du cadeau personnalisé de baptême et de mariage. Et donc vous venez ici, accompagné de votre ouvrage qui est magnifique, le fabuleux recueil de Noël aux éditions de l'Emmanuel. Il faut dire qu'on le disait juste avant de rentrer dans ce studio, les contes sont à la mode, on peut dire que c'est vraiment tendance cette année, il en pleut, mais nous avons choisi la crème de la crème, chers amis. Et oui, en face de vous, Blanche Collonges. Bonjour Blanche.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir dans ce studio de Radio Notre-Dame ainsi que sur RCF. Vous qui êtes professeur auteur et de votre côté, vous avez publié un grand livre qui pèse très 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 lourd, mais qui vaut la peine, 24 contes autour de la crèche publiés chez MAM. Et enfin, the best but not the least, the last but the best, que je raconte. je vais être punie par les autres. Vincent Fernandel, bonjour Vincent.
Marianne, je vous remercie déjà de m'inviter à chaque fin d'année, c'est mon cadeau de Noël
ça
en avance.
Ça fait combien d'années que vous venez ici?
Oh, ça doit faire 25 ans environ, je pense.
Merci,
la première fois, j'avais la sucette et le hochet, vous voyez.
Non, ah oui, c'est vrai ça, c'est pas moi.
je vous remercie, Marie-Ange, c'est la première fois qu'on me présente en anglais.
C'est vrai c'est curieux.
Alors là, je passe un star en la renommée internationale, n'est-ce pas?
Qu'aurait dit votre grand-père, Vincent Fernandel? Quelle horreur.
Sur l'anglais, oui. Il pouvait rien dire, il en parlait pas un mot, le pauvre.
Et le chic anglais, il en parlait peut-être?
Le chic anglais, avec l'accent de Marseille.
Et oui, avec l'accent de Marseille. En tout cas, vous êtes toujours producteur éditeur musical dans le livre CD Marcel Pagnol, lu par Vincent Fernandel. Voilà, c'est votre dernier livre aux éditions Fleurus.
Oui.
Et oui, les si belles éditions Fleurus. Alors, expliquons rapidement. Donc, il y a des extraits de La gloire de mon père. On entend déjà les cigales, rien que d'y penser. Le château de ma mère et Le temps des secrets.
Oui.
Lu par vous directement et illustré par Gérard Guerlet. C'est des charmantes illustrations. De toute façon, dans les trois livres, je trouve que les illustrations sont magnifiques. Voilà. Et donc, ça s'adresse évidemment aux enfants à partir de, je sais pas, 0, de
non,
3 ans, 2
peut-être
ans.
Pas de 7-8 ans quand
7,
même.
7-8 ans, faut qu'ils, oui, pour oui. les lire, qu'ils lisent eux-mêmes.
Oui, ne serait-ce que pour la compréhension de certains passages
c'est
également.
C'est vrai, voilà. On est d'accord. Il voilà. Y a la langue, sinon, qu'on peut faire écouter à nos enfants. En tout cas, il y a un livre, un CD, c'est ça que je voulais dire, c'est accompagné oui. d'un CD. On peut toujours écouter des CD, ça existe encore, oui, mesdames et messieurs.
Absolument.
Le CD n'est pas mort en 2023.
Elvis Presley non plus n'est pas mort. Vous savez, c'est légende qui s'en sort.
Elle ne vit plus d'ailleurs.
Non,
enfin,
c'est vrai, on l'a encore croisé il y a quelques temps au métro Edgar Quinet, à côté de votre station. Il va très bien.
Voilà. Comme quoi, nous ne sommes pas fous, nous sommes bien dans quête de sens. Ne vous en faites pas et nous rapprochons à grands pas de Noël. Nous ferons lire évidemment en direct certains extraits par Vincent Fernandel lui-même, puisqu'on a la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, finalement, d'où vient cette tendance à votre avis? C'est drôle, franchement, on s'éloigne, on a l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus de Noël. On l'a évoqué dans cette émission il y a quelques temps. Les crèches, on n'a plus le droit. Les sapins, on n'a plus le droit. J'entends dans les villes. Bon, alors il reste les contes. Comment vous analysez ça rapidement, ce début d'émission, en faisant un tour de table, Isabelle? Vous avez une idée sur la question? Pourquoi est-ce que ça cartonne les contes de Noël, hein?
Je pense que oui, à la période de Noël, c'est quand même une période propice à l'émerveillement, malgré tout.
Quand même,
je pense, oui.
Que l'on croit ou pas au Messie.
Que l'on croit ou pas, on était au spectacle de Noël des enfants la semaine dernière et ils ont joué un petit conte.
Les 8
Non, les petits derniers. Ils ont joué un petit conte de Noël et derrière, on entendait la conversation de gens pas spécialement près de l'église, croyants ou autres, qui disaient. Ils nous le ressortent chaque année, mais c'est quand même un beau message. Et je me dis, voilà, je pense que les gens sont quand même touchés par quelque chose d'un peu plus grand qui les dépasse à l'approche de Noël, ouais. Et que le conte est quand même une bonne manière de véhiculer ça.
Ouais. Vincent, comment c'est-vous ?
Vous savez, vous parliez effectivement du fait que maintenant, lorsqu'on s'approche des fêtes, on ne peut plus dire les fêtes de Noël, il faut dire les fêtes de fin d'année.
C'est vrai.
Nouvel
c'est
élément vrai. De langage.
Merry Christmas en anglais, c'est
voilà.
Tout.
Voilà, les crèches sont maintenant totalement prises à partie pour leur dimension religieuse, alors qu'il faut quand même savoir que les crèches, au-delà de leur dimension chrétienne, sont aussi des œuvres d'art qui dépassent l'aspect religieux et qui s'inscrivent aussi dans une tradition et un artisanat français. Et là, on va aborder, mais ce n'est pas le thème du tout, et je ne suis pas spécialiste, le thème finalement de la laïcité. C'est-à-dire que, est-ce que la laïcité sur le papier, légale, et ainsi qui est inscrite dans la loi et la Constitution, est-ce qu'elle peut marcher, cette laïcité ? Moi, je crois que la laïcité, en fait, est un véritable, non pas souci, mais c'est un sujet de débat que certains spécialistes devraient avoir avec des hommes et des femmes de l'art, n'est-ce pas ? Ce n'est pas à moi, artiste, de débattre là-dessus. Cependant, ce que je puis vous dire sur ces fêtes de Noël, car moi je continue à dire les fêtes de Noël, et même pas parce que je suis catholique, mais parce que je suis d'abord français un peu traditionnaliste, n'est-ce pas ? Comme beaucoup, ce que je constate, c'est qu'effectivement, ces fêtes de Noël et tous les éléments et les fêtes, les organisations de manifestations qui vont autour, réjouissent les gens, car il ne faut pas oublier une chose, ma chère Marie-Ange, c'est que la petite poignée d'arbitres des élégances et des non-élégances qui sont donc les envoyés, les émissaires de l'État ou des médias, c'est en fait, et qu'on entend tout le temps, c'est en fait une minorité qui a un rayonnement extraordinaire, tentaculaire, alors qu'en fait ces gens-là ne sont pas si nombreux, car quand vous vous placez sur le territoire, ce qui est mon cas parce que j'ai la chance de faire beaucoup de dédicaces avec mes ouvrages pour les enfants, vous voyez que les gens, quelle que soit, et je le dis, quelle que soit leur obédience religieuse, sont attachés aux traditions françaises, ouais. Dont les fêtes de Noël. Par conséquent, la division qui est en train d'être instaurée, enfin en tout cas qu'on tente d'instaurer dans la tête des Français, quelle que soit leur confession encore une fois, marche lorsqu'on allume la télévision peut-être, mais dès lors qu'on l'éteint et qu'on sort, on voit que tout ça, c'est le miroir aux alouettes. Quoi. Ouais. Donc et ça, il faut le dire.
Et que les bougies s'allument dans les foyers.
Mais bien voilà, évidemment.
Et voilà, quand la télé, la lumière de la télévision s'éteint, enfin.
Si,
voilà.
si je puis dire aussi, j'ajoute ça, c'est qu'on ne rassemble pas les gens en les divisant. Hein. C'est un peu une lapalissade, ce que je vais vous dire. Mais on tente de nous faire croire actuellement que chacun chez soi, personne ne partage ses différences culturelles et tout ira bien. Je crois que la preuve en est donnée, que tout va très mal à cause de ça. C'est pour ça qu'encore une fois, la fête de Noël, pour moi, c'est au-delà de la dimension catholique et chrétienne.
Ouais.
C'est un moment de réunion. Voilà.
Qu'en pensez-vous, Blanche Collant, justement, est-ce que, peut-être, alors vous n'êtes pas devins les uns les autres, ni prophètes, mais est-ce que cette année, il y aura... moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de particulier cette année. J'ai l'impression que les gens ont besoin de retrouver un peu une certaine forme de magie de Noël. Les sapins, j'ai l'impression qu'ils sont préparés plus tôt que d'habitude, les crèches aussi, pour ceux qui y sont attachés. Qu'est-ce que vous en avez perçu les unes les autres, et vous de votre côté, qui vous intéressez à Noël quand même ?
Autour de Noël, il y a quand même cet immense mystère d'amour que tout le monde peut ressentir
que
quelque part.
Ouais.
Parce qu'il y a un message universel qui est porté par ça. Et je crois que, du coup, dans les contes, il y a cette expérience qui est possible d'être touché par quelque chose qui est vrai, qui est bon, qui est beau. Et c'est une expérience singulière, hein, parce qu'on rentre vraiment dans l'histoire sans la mettre à distance et en se laissant toucher. Et je pense que les gens sont réceptifs à ça. On a tous en nous encore une part d'enfance, une part d'émerveillement qui va pouvoir saisir quelque chose. Et je pense qu'autour de Noël, il y a ça. Il y a un peu cet éveil de cette part d'enfance en nous qui sait s'émerveiller, qui réapprend à regarder, à écouter.
Et notamment à travers ces contes qui datent. C'est vrai que c'est fou parce que c'est... Alors j'ai parlé des second côté tous, mais il y en a bien d'autres évidemment. Et vous êtes là pour les exhumer, pour les déterrer justement, pour les dégoter à droite à gauche. Alors mesdames, vous de votre côté en tout cas, Isabelle Chevillard également. C'est vrai que c'est infini, la magie de Noël finalement à travers tous ces contes. Alors parfois c'est vrai que c'est des... Comme disait Kafka, j'avais retrouvé cette phrase, il n'existe que des contes de fées sanglants. Tout conte de fées est issu des profondeurs du sang et de la peur. Alors, sans aller jusque-là, les contes de Noël, il y a des choses tristes. En tout cas, tout ce qui est Dickens, etc., c'est des scènes très réelles, très réalistes, de scènes de la vie de tous les jours, de la triste réalité, qui se termine plus ou moins bien, mais par une forme de magie ou de happy end, parce que c'est la magie de Noël qui opère. Mais en réalité, c'est en fait assez réaliste, finalement, le conte de Noël en particulier.
Ouais, je pense que grâce au conte, on a un champ des possibles qui est assez large. C'est-à-dire qu'on peut faire parler des animaux, on peut faire se disputer des fleurs entre elles.
J'adore, c'est magique.
Voilà. Et pourquoi les fleurs ne se disputent pas vraiment entre elles ?
Ah si, moi je pense que les fleurs se disputent.
Ah oui, parce que sinon ça veut dire que j'entends des voix sur mon balcon entre les géraniums. Alors,
et la palette.
Vous me rassurez.
Et je pense que ça permet voilà, de créer une juste distance, en fait... par rapport à la vie, par rapport à ce que peuvent ressentir les enfants, parce que là, on parle des enfants, mais aussi les adultes. Et voilà, on peut comme ça s'identifier à des personnages imaginaires.
Ouais, donc c'est l'objectif de cet ouvrage, donc le fabuleux recueil de Noël, je crois que j'ai oublié de le préciser en ce début d'émission, pardonnez-moi, aux éditions de l'Emmanuel Jeunesse. Alors c'est magnifique en fait. Oh, ils sont tous magnifiques, je suis désolée. C'est illustré de façon ravissante. Alors effectivement, on rentre dans cet ouvrage à travers, alors c'est pas du tout des contes, hein. C'est des petites histoires autour de comment peut-on dire, l'environnement de Noël, le peuple des bois, secret de clocher, le sommet du romarin, s'il te plaît dessine-moi un berger, le petit page du ciel, le parfum de Noël.
Les titres donnent envie en tout cas.
Ouais, ça donne envie.
Ah oui, ce sont de jolis titres.
Ce ne sont pas que des contes, en effet, voilà. C'est un petit florilège de poèmes, il y a beaucoup de poèmes. J'avais envie d'écrire de la poésie avec des vraies rimes et des vrais alexandrins. Et je trouve que ça donne une... Oui, j'écris et je dessine. Et ça donne une jolie musique dans la tête à l'approche de Noël.
On peut apprendre à lire à Noël en lisant. Parce que c'est écrit gros. Alors que chez vous, c'est écrit plus petit. C'est des contes qu'on lit aux enfants.
Absolument.
Hein, de votre côté, Isabelle. C'est ça qui est magique aussi. C'est d'entendre. Alors là, c'est pareil. C'est ce que va nous... proposé tout à l'heure, je l'espère, Vincent Fernandel, mais
nous
d'entendre,
verrons,
c'est pas pareil.
Le mec, il fait un peu la vedette, tu sais. Je ne sais pas dans quel état serais-je dans quelques minutes, n'est-ce pas ? Car vous savez, les artistes sont compliqués.
Non, mais on lit pas comme on entend. On voyage pas de la même façon, hein, quand on entend quelqu'un raconter un conte de Noël. Surtout quand il y a de la musique, un accompagnement, c'est encore autre chose.
Puis c'est pas une Isabelle. Écoute, Blanche. C'est une écoute très particulière.
Qu'est-ce que je raconte
Parce que l'idée, c'est vraiment de pas mettre de distance avec le texte, c'est de rentrer dans l'histoire, de faire silence, de la vivre de l'intérieur. Et les enfants, ils sont vraiment nos maîtres pour ça, parce qu'ils savent faire ça. Ils ont un accès à l'invisible, en fait.
Alors, citons un peu, rentrons dans le vif du sujet de votre côté. Donc, ce sont des contes, des vrais contes, pour le coup, que vous avez choisis, sélectionnés. Comment vous les avez sélectionnés, ces contes ? En fonction de quoi, finalement ?
Alors, je les ai écrits.
Rapprochez-vous de votre micro.
Je les ai inventés. Je suis partie des personnages, en fait, tout simplement. Je me suis dit, tiens, ce bœuf là qui souffle sur l'enfant Jésus, quelle est son histoire ? Tiens, et si un petit aveugle allait à la crèche, un petit garçon aveugle allait à la crèche.
C'est vous qui avez écrit les
contes ? Oui, c'est moi qui ai écrit.
Je pensais que vous étiez inspiré au moins, ou en tout cas que vous les aviez dégossé. Ah, je pensais pas que c'était vous qui les aviez écrits. Bah, écoutez, bravo, félicitations.
Merci beaucoup.
Et donc, en fonction de vos inspirations du moment, vous avez créé des contes autour de personnages de la crèche ou de Noël, de la magie de Noël qui vous ont inspiré.
Exactement, oui. L'inspiration, en fait, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais ce que je vois après, quand je relis ce que j'ai écrit, c'est toujours ce même schéma de un personnage qui est là tel qu'il est, avec ses forces, ses faiblesses, etc., et l'action de Dieu qui arrive d'une manière totalement inattendue. Voilà. Ah. Et comment par l'autre, par un chant, par plein de choses différentes. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais en fait, c'est Noël, c'est Jésus qui arrive dans la paille de la crèche, tout pauvre, tout petit... C'est inattendu, c'est...
Ouais. Voilà. Eh bien, merci infiniment pour cette première petite mise en bouche, si je peux dire. Avant Noël, il n'est pas trop tard. Puisque c'est vrai que l'heure des vacances a presque sonné, je disais ça en introduction, c'est demain, si je ne me trompe pas, demain soir. Donc attention, il va falloir s'occuper et occuper les enfants, et notamment à travers, pour les calmer peut-être le soir, je ne sais pas, il n'y a pas d'heure pour lire des contes.
On sent la mère de famille qui sait qu'elle n'aura pas vraiment de vacances.
Ouais, c'est ça qui est très inquiète.
Sur le papier,
jours,
elle en a, mais dans le vrai, voilà. On viendra vous aider, Maria, dans ce relais-là, n'est-ce pas?
À lire des contes avec ces dames, au coin du feu, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'heure pour lire un conte, Vincent?
Alors, il vaut mieux quand même le lire à des heures raisonnables pour que le petit puisse aller au lit tôt, n'est-ce pas? Après, les adultes,
ça reste le soir.
Ah, oui, ça reste le soir quand même, le conte. Oui, oui. Ouais. Mais à la fois, je vais vous dire, c'est un petit peu comme une bonne charcuterie. On peut aussi l'attaquer dès 10 heures du matin, vous voyez, quand on est un peu vaillant, vous voyez. Non, mais c'est vrai que le conte, je crois que le conte, c'est le soir. Parce que c'est le moment de l'apaisement, c'est le moment, comme disait très bien Jean-Claude Izzo, qui est un auteur marseillais formidable, il écrivait « La nuit, le monde nous oublie ». Voilà, moi j'aime beaucoup cette phrase.
Le monde nous oublie.
Oui, j'aime beaucoup cette phrase, car j'aime beaucoup que le monde m'oublie, et moi-même de l'oublier aussi, voyez-vous. Mais c'est vrai que le moment du conte, alors si on a une cheminée, tant mieux, mais aujourd'hui, vu le prix des loyers à Paris, on a plutôt un radiateur électrique, mais même si on a un radiateur électrique, si on est ensemble et qu'on s'aime, vous parliez de l'amour, madame, et vous avez raison, c'est vrai que le moment du conte, le soir, quand la ville s'endort, quand les soucis aussi commencent à se disperser, c'est un moment de retrouvailles. Et vous savez, d'ailleurs, c'est comme se raconter sa journée quand on rentre à la maison et qu'on retrouve l'être qu'on aime. Alors, c'est vrai que les journées peuvent être parfois un peu moins merveilleuses qu'un conte, mais si on y met le ton et un peu de faconde, on peut transformer une journée tout à fait classique en moment de bravoure, vous voyez.
Le chevaleresque Vincent Fernandel.
Exactement, je prends le métro, je vous fais trois tomes, l'Iliade et l'Odyssée, voyez-vous. Non, mais c'est vrai, il y a une confidentialité dans le conte, je crois. Et c'est pour ça aussi qu'en tant qu'interprète, moi j'essaye toujours, quand j'enregistre, de me dire, je m'adresse à une seule personne. Voilà, une seule personne qui me tendrait l'oreille, qui n'est pas loin de moi, pour pas hurler, parce que déjà dans le monde il y a assez de bruit comme ça. Et pour vraiment dire, voilà, viens, écoute, on est tout à côté, le feu crépite, il fait bon, et puis voilà, on se raconte les choses. Voilà,
ah, je voulais mettre un feu qui crépitait, mais ça a été... J'ai oublié.
Réduction de budget, Marianne.
Ah bah c'est ça.
Avant, Radio Notre-Dame, il y avait des chœurs d'enfants avec les croix de bois dans le studio. À la grande époque,
c'est
maintenant,
il
n'y a même plus l'orgue avant. Il n'y avait...
a plus rien.
Il était là dans le studio.
Il y a la voix de Vincent et d'Isabelle Chevillard et de Blanche Collange.
Nous, on rentre encore dans le budget, mesdames. Vous voyez,
on rentre dans le budget, tout juste, mais ça va, ça passe. Et on rentre aussi dans le budget côté musical avec Ding Dong Mary Lee Han High, si vous le permettez, interprété par l'ensemble Anéa, que nous écoutons tout de suite. À tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Merci beaucoup François Dieudonné, je ne connaissais pas cet air, et bien merci beaucoup de l'avoir proposé au cœur de cette émission consacrée aux contes. Allez-y, allons-y, plutôt plongeons, et si on se préparait à Noël tout simplement en se plongeant dans les contes de Noël, Vincent Fernandel, Vincent Fernandel est avec nous. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, pardon, puisque nos auditeurs d'RCF nous découvrent seulement depuis la rentrée de septembre, Vincent Fernandel, donc vous êtes le petit-fils hein, du vrai Fernandel, hein, au cas où certains auditeurs en douteraient encore, hein, même s'il y a des airs de famille côté voix et côté bobine.
C'est bien ça, côté voix, côté bobine.
Bah écoutez...
Ça pourrait être le titre d'une biographie ou d'un livre, j'aime bien.
Mais voilà, donc pour préciser, eh bien moi je vous propose tout simplement...
J'avais un papa aussi, hein, je le dis à chaque fois, j'avais un papa quand même, hein, qui s'appelait Franck Fernandel aussi. Hein.
Qu'est-ce qu'il faisait déjà votre papa ?
Il était chanteur. D'ailleurs j'en profite parce que, vu que je suis sur votre antenne, un peu de promotion familiale ne fait jamais de mal. Dès le 12 janvier, sur toutes les plateformes, vont ressortir des succès de mon père, de ses chansons, voilà, en tant que producteur, que j'ai réacquis, que j'ai racheté, et qui vont sortir,
hein,
voilà, dans une très belle réédition remasterisée.
Vous faites la promo du papa et du grand-père, c'est génial.
Mais je vais vous dire, je suis devenu producteur de mon père à titre posthume, figurez-vous.
Ah, c'est ça ?
Absolument, parce que mon père est mort depuis une douzaine d'années, et en fait, j'ai réacquis beaucoup de ces titres que les gens me réclamaient, et qu'ils ne trouvaient plus pour justement les remasteriser, les remettre au goût du jour et les reproposer, dans le désir de transmission toujours. Voilà.
Ouais. Eh bien écoutez, je vais vous demander, alors les uns les autres, eh bien si vous le souhaitez, hein, de lire un peu votre petit conte chouchou, ou de nous raconter l'histoire.
Votre conte chouchou, c'est mignon votre conte chouchou, vous avez la formule.
Et de lire votre, ouais bof. En tout cas, faire partager votre histoire. Alors vous, je ne sais pas, entre la ça va être difficile de choisir, j'imagine. Pour
vous savez, moi, je commence toujours par le début, Marie-Ange. Je trouve que c'est le mieux, parce que quand on prend un extrait isolé du reste... Ouais, ouais. Exactement.
Alors lequel ?
Écoutez, on va commencer par la gloire de mon père, vu que c'est le premier.
Hein. Allez-y, nous vous écoutons.
Bon, vous m'arrêtez, hein, une fois que le timing
d'accord
est passé, naturellement.
Hein.
Vous faites ça,
Marie-Ange. Il n'y a pas les cigales, c'est dommage,
voilà.
Mais
vous êtes trois, vous pourriez faire un effort. Hein,
c'est vrai que c'est...
Donc c'est un extrait de la gloire de mon père. Un beau soir du mois d'avril, je rentrais de l'école avec mon père et Paul. C'était un mercredi, le plus beau jour de la semaine, car nos jours ne sont beaux que par leur lendemain. Tout en marchant le long du trottoir de la rue Tivoli, mon père me dit « Crapaud, j'aurai besoin de toi demain matin. Pourquoi faire ? Tu le verras bien. C'est une surprise. Moi aussi, tu as besoin de moi ?» demanda Paul, inquiet. « Bien sûr, dit mon père, mais Marcel viendra avec moi, et toi, tu resteras à la maison pour surveiller la femme de ménage qui va balayer la cave. C'est très important. »« Moi, d'habitude, dit Paul, j'ai peur d'aller dans la cave, mais avec la femme de ménage, je n'aurai pas peur. » Le lendemain, vers 8 heures, mon père vint me réveiller en imitant une sonnerie de clairon, puis il rejeta mes couvertures au pied de mon lit. « Il faut que tu sois prêt dans une demi-heure. Je vais me raser. » Je frottai mes yeux à poings fermés, je m'étirai, je me levai. Paul avait disparu sous ses draps et il n'en sortait qu'une boucle de cheveux dorés. Je trouvai mon père assis devant la table de la salle à manger. Il était en train de compter de l'argent. En face de lui, ma mère buvait son café. Ses nattes noires, qui avaient des reflets bleus, pendaient jusqu'à terre derrière sa chaise. Mon café au lait était servi.
Et ben voilà.
Si vous voulez savoir si le petit Marcel va boire son café au lait ou pas,
La suite
dans Marcel Pagnol, lu par Vincent Fernandel.
Alors c'est vrai que nous éloignons un peu de Noël, mais c'est pas grave, c'est vrai que ça peut paraître un peu hors sujet cette affaire de Marcel Pagnol, mais en fait pas du tout, parce que ça peut être l'occasion de lire des contes au pluriel. Mesdames, alors vous, je sais, de côté de Blanche et du côté d'Isabelle, c'est vrai que ça touche plutôt l'hiver et Noël, là c'est un peu l'été. En général, avec Marcel Pagnol,
alors
c'est
vous savez que Pagnol,
pas toujours remarqué.
Mais
hein.
Pagnol traverse les quatre saisons,
oui,
vous
c'est
savez.
Vrai. Les trois messes basses.
Ça, c'est Daudet.
Ah, oui, c'est
les trois messes basses. Même
c'est...
si Pagnol, mais vous avez raison, Marie-Ange, en ce sens que Pagnol.
C'était l'année dernière.
Non, mais Pagnol les a adaptés au cinéma, donc vous avez raison quand même, figurez-vous.
C'est vrai.
Voilà, vous n'avez pas du tout tort.
C'est vrai. Oui,
absolument.
Une espèce d'amalgame qui se crée cet après-midi.
Mais vous savez, Pagnol, je ne dis pas ça comme une formule promotionnelle. Quand je dis que Pagnol traverse les quatre saisons, c'est-à-dire que lorsqu'on prend l'œuvre de Pagnol, qui est pléthorique dans tous les domaines, aussi bien le théâtre, le cinéma que la littérature pure, Marcel Pagnol était un très fin connaisseur, un amoureux de la nature et de ses mouvements. C'est-à-dire que lire Marcel Pagnol, c'est plonger dans une culture, une affection et une érudition de la nature ouais. et de ses mouvements. Et quand je dis la nature, c'est naturellement la nature humaine et psychologique qu'il a magnifiquement cerné pendant toute sa carrière, mais aussi les mouvements de la nature végétale, animale, les saisons, les descriptions de Marcel Pagnol, par exemple, dans Jean de Florette et Manon des Sources, qui sont ouais. les deux romans préférés, que j'ai eu la chance d'enregistrer d'ailleurs en intégralité, ils vont sortir en 2024. Ces romans, lorsque Pagnol décrit les mouvements du ciel, les mouvements de l'eau, il personnalise un petit peu à la manière de Giono, même si l'écriture est différente, il personnalise les éléments comme des êtres de corps, de chair, de cœur et d'âme. C'est exceptionnel, Marcel Pagnol, pour ça. Donc c'est aussi une invite, je pense, à redécouvrir cette nature dont nous venons quand même.
Ouais, absolument. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, hein, mesdames, mais peut-être pour lire quelques extraits. Vous
ah oui, moi je veux, moi.
Petite feuille ou pas, par
non,
hasard,
mais non. Je peux raconter.
Ah, c'est ah oui. Chouette. Ah oui. Vous êtes trop forte.
Je suis un stit en maternelle.
C'est pour ça.
Ça aide.
Vous êtes un stit en maternelle. Oh là là.
Si ma fille avait une maîtresse comme vous l'année prochaine, je serais très heureuse. Figurez-vous, une conteuse. C'est vrai qu'on souhaite ça pour nos enfants, d'avoir des conteuses, des conteurs. Ce serait formidable. Isabelle, on commence par vous alors, on continue ce petit tour de table. Cette fois, on rentre vraiment dans Noël avec vous, mesdames. Attention. Alors, votre poème. Petit poème chouchou, un petit peu, qui nous met un peu dans l'ambiance.
J'adore le poème chouchou, Maria. Non, je vais vous le piquer, je trouve ça très mignon.
C'est très mignon. Ouais.
On va faire écoutez, une soirée poème chouchou, on invite des amis, on fait poème chouchou.
On va penser à un film du même titre, mais c'est pas grave. Alors, et les illustrations, c'est moi je trouve que toutes et tous, vous avez mis le paquet sur les illustrations et ça manquait. Je trouve que les années précédentes, très sincèrement, ça manquait et là je trouve vraiment que vous avez mis le paquet. Mmh. Bravo.
Alors, la petite fleur d'hiver. Dans l'ordre des saisons règne une belle harmonie. Les fruits sont pour l'été, au printemps sont les roses, l'hiver, l'arbre se repose par l'automne essoufflé. Insouciante prime vert ou bien royal lys blanc, coquet muguet de mai, fier coquelicot des champs, tous les peuples des fleurs a ordonné sagement, pour éclore en beauté, attendons le printemps. Avez-vous entendu ? Une petite voix discrète s'est élevée timide parmi les pâquerettes. J'aimerais, moi, fleurir tout au long de l'hiver. Roses et pivoines bondir, écarlates de colère. Mais vous n'y pensez pas, tonna le bouton d'or. Ma pauvre et chère amie, avant même d'éclore, vous seriez morte de froid. Et toute l'assemblée éclate d'un rire fleuri, à pétales déployés. L'hiver suivant arrive. La fleur si courageuse ouvre un œil et admire la forêt silencieuse. Un malicieux moineau sautille sur la branche d'un arbre revêtu d'une froide cape blanche. Suis-moi, gazouille-t-il, s'envolant vers la plaine. S'arrêtant, il se pose sur la branche d'un chêne, désignant de son aile une douce lumière. La fleur, émerveillée, murmure cette prière. Permettez-moi, mon Dieu, de fleurir maintenant. Mes trois clochettes blanches amuseront l'enfant. J'offrirai mon parfum pour honorer la Vierge. Fleuris, dit le bon Dieu, je te nomme Père-Neige.
Oh, c'est très joli. C'est magnifique. Ah,
c'est
ah là là,
c'est tout à fait ravissant.
Ah, ravissant. Ah, oui. Alors là, c'est ce soir, ma fille, directement, ça on va démarrer là. Je sens que la venue du Messie s'annonce plus légère que prévu.
Parce que là, c'est que les mots sont simples, mais les évocations sont fortes.
Mais oui, c'est ça qui est fabuleux.
Ça, c'est toujours le tour de force, ça, d'arriver à écrire avec un vocabulaire accessible et d'arriver à créer un univers assez ample, assez vaste.
On a une langue française qui est quand même aussi fabuleuse pour le faire.
Ah, hein. Naturellement.
N'est-ce pas, Blanche? Vous êtes d'accord?
Oui.
Alors, pardonnez-moi. Alors, on va le dire aux auditeurs, cette histoire, que absolument. Votre livre, je l'ai tellement aimé qu'elle a publié chez moi.
Je suis ravie qu'il soit utilisé, raconté.
Ma fille l'a déjà torturé mille fois, donc il sert, mais du coup, il n'est pas ici, donc je suis désolée.
Mais c'est preuve de succès.
Moi, je suis pour la vérité. Ouais, exactement. Voilà pourquoi il n'est pas devant moi, là, dans ce studio, cher Blanche Collange, mais vous avez une mémoire extraordinaire et donc vous allez pouvoir nous raconter votre conte chouchou à vous.
Absolument.
Alors, allons-y.
Donc je vais vous raconter l'histoire de Diego, un petit angelot qui est tout seul dans le ciel sur son nuage. Il est très triste. Il fait partie du chœur céleste, mais il est très timide. Et à chaque fois que le chœur céleste donne un concert, sa gorge se noue et il n'arrive pas à chanter. Et voilà, il est là, tout seul. Il fredonne une petite berceuse qu'il a entendue, une maman qui berçait son enfant à l'heure de la sieste. Et l'archange Gabriel passe par là et lui dit « Mais c'est une très jolie berceuse, Diego. est-ce que tu voudrais la chanter ? C'est la nuit de Noël, bientôt, le sauveur va venir. Et Diego, il répond, ma petite berceuse, elle va intéresser personne. Le roi de l'univers qui vient. Et l'archange Gabriel lui dit, mais tu te trompes, Diego. Il y aura un sauveur à acclamer, mais aussi un petit bébé à bercer. Alors Diego a peur, mais il dit d'accord, il est prêt, il se prépare, il s'entraîne à chanter. Et puis arrive la nuit de Noël, le chœur céleste chante. Et puis l'archange Gabriel, à la crèche, fait signe à Diego de s'approcher. Alors Diego s'approche tout tremblant et l'enfant Jésus pose son regard sur Diego. C'est un regard qui est plein de douceur et Diego, il se sent immensément aimé. Il voit plus que les yeux de Jésus, il n'a plus peur de rien et sa voix s'élève dans le silence et il berce l'enfant Jésus. Alors je vous donne les paroles. Petit enfant, ferme les yeux, c'est blotti dans la main de Dieu que tu trouveras le sommeil. Petit enfant, petit trésor, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Ferme les yeux, ton Seigneur veille. Et dans la sainte nuit de Noël, bercé par le chant du petit angelot, l'enfant Jésus s'endort.
Oh, c'est trop beau, j'ai envie de pleurer, c'est trop magnifique. Merci beaucoup.
Vous avez une mémoire incroyable, hein. Bravo. Franchement.
Vos élèves doivent être ravis parce que c'est vrai que.
Vous l'avez raconté à vos élèves,
ouais.
Certains.
Alors là, je suis en congé parental, donc j'ai pas pu la raconter à mes élèves.
Mais c'est à faire.
C'est à faire, oui. C'est magique.
Tous les enseignants qui nous écoutaient, n'hésitez pas à raconter des contes. Oui. C'est vrai qu'on a tous été marqués par des maîtresses, j'en sais rien.
Et des histoires.
Des histoires qu'on nous raconte en maternelle et même plus tard. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de simple à faire, mais qui captive. Hein.
Et c'est incroyable la manière dont ils vont recevoir l'histoire, les enfants. La manière dont les enfants vont recevoir l'histoire, ça nous dépasse, en fait, complètement. On voit les yeux qui brillent, et voilà, ils ont chacun leur expérience de l'histoire. Donc c'est trop beau de voir ça.
Et leur demander, quand on leur demande après, c'est chacun a retenu quelque chose de différent, qui est complètement inopiné. Quoi,
et parfois, c'est un petit détail de nulle part. Donc non, c'est très, très beau.
Il faut être un métier magique.
Absolument, oui.
Bon, écoutez...
Et utile.
Et indispensable. Gabriel Attal, écoutez cette émission. Bref, continuons en musique, si vous le permettez, puisque je crois que de l'autre côté, c'est ce qu'on m'exige de faire immédiatement. Nous écoutons un Noël d'antan, signé James Last. À tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Thank you.
un Noël d'antan tout chantant. James Last sur Radio Notre-Dame et RCF. Et si on se préparait un peu mieux à Noël en se plongeant dans les contes, justement. Alors, de Noël de préférence, mais on peut aussi faire un petit encart, un petit écart en se plongeant dans Marcel Pagnol, avec raconté par Vincent Fernandel dans un CD paru chez Fleurus. Je rappelle que mes trois invités sont ici avec leur ouvrage, leur série de contes, qui sont des inspirations pour Isabelle Chevillard et Blanche Collonge. Isabelle Chevillard, juste un petit tour, un rappel, évidemment, le fabuleux recueil de Noël aux éditions de l'Emmanuel. Et Blanche Collonge, qui est maîtresse en maternelle, on peut le dire maintenant, et qui a écrit, institutrice, pardon, parce qu'on ne dit plus, chez MAM, 24 contes autour de la crèche, qui sont également une création. C'est vrai que je ne reviens pas que vous soyez aussi capable. Moi, je serais incapable d'écrire des contes comme cela, aussi, en plus, raffinés, aussi, qui nous font vraiment voyager et rêver, et qui font voyager nos enfants aussi. Y a-t-il un âge pour entendre ou lire des contes? Il me semble que non. On peut en lire et en entendre et aimer et savourer des contes de 7 à 77 ans et plus, ou pas, Isabelle? Vous régalez encore ou pas, vous?
Alors oui, moi je me régale encore.
C'est vrai?
Et en ce moment, à la maison, on lit un conte qui a 24 chapitres et je les ai imprimés, chaque chapitre, et donc les enfants, les petits, ils ont une petite boîte aux lettres et chaque soir, je mets une petite enveloppe dans la boîte aux lettres, et ils ouvrent et ils ont le chapitre du conte qu'on va lire le soir.
Waouh!
Ça, c'est pour les petits. Le rendez-vous.
Donc, c'est extraordinaire.
C'était le petit calendrier de l'Avent littéraire. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai des ados de 12, 14 ouais. qui traînent toujours un peu dans les parages hein, à l'heure où on va lire le conte aux petits. Donc, oui, je pense que vraiment, ça touche tous les âges.
Ouais.
Ils ont envie de savoir la suite, les grands.
Et quels sont les contes qui fonctionnent bien pour les âges un peu plus difficiles, par exemple les ados?
Oui, alors là, moi, j'ai choisi un conte pour les petits. Donc, ils sont contents d'entendre quelque chose qui leur rappelle aussi.
Ces contes?
Oui, qui leur rappelle. Comment?
Quels sont-ils, ces contes?
Alors là, j'ai trouvé un petit conte d'une autrice qui s'appelle Adeline Voisard, et ça s'appelle « Le merveilleux secret ou trésor de grand-pa ». C'est trop mignon, ça se passe dans la forêt... C'est merveilleux, c'est très Saint-François,
François d'Assise.
François d'Assise, voilà, donc il y a toute une quête spirituelle dans une forêt, avec des animaux qui parlent aussi, enfin, tout ce que
C'est pour ça que vous nous parliez des dialogues entre les fleurs,
oui,
maintenant les animaux.
Oui, c'est ça aussi. Et en fait, je trouve que ça plaît à tous les âges. Enfin, moi aussi, j'aime bien avoir la suite, parce que je n'ai pas lu, au final, je ne sais pas la fin. Je lis en même temps, je découvre en même temps que les enfants.
Parce que pour se mettre dans la magie de Noël, moi, j'ai découvert, depuis que j'ai eu ma fille, que c'était la crèche qui primait. Mais en fait, c'est une série de petits détails. C'est le sapin à décorer, la crèche à poser, je ne sais pas ce que vous en pensez, et les contes, en fait. Hein. Et les contes, en fait, c'est le trio gagnant, ça, pour... Vous êtes d'accord aussi, Blanche?
Oui, je trouve que ce sont vraiment des supports qui nous font entrer dans la contemplation. De réapprendre à poser un regard juste émerveillé sur le monde, sur ce qui est tout simple, sans rationaliser, sans... Et c'est pour ça que c'est pour tous les âges, en fait, parce qu'on est aussi amené à retrouver parfois un peu cet esprit d'enfance qu'on peut avoir un petit peu perdu.
Ouais. Vous l'avez ou pas, vous, de votre côté? Je sais que vous avez un rapport à Noël un peu compliqué. C'est drôle parce que paradoxalement, je vous invite tous les ans à l'époque de Noël. C'est drôle.
Mais
ça,
il faut toujours le vieux petit canard qui a le rapport compliqué. Oui, vous avez retenu ça, effectivement. Mais... Non, c'est pas tant que j'ai un rapport compliqué, Marie-Ange. Moi, vous savez, les célébrations qui ont pour socle des choses et des valeurs nobles, encore une fois, que ce soit religieux ou irreligieux, la question n'est pas là. Moi, ça me fait toujours plaisir. Moi, ce que je vous ai dit, je crois, hein, si j'ai bonne mémoire en substance, c'est que pour moi, le diable se cache, et d'ailleurs, il se cache de moins en moins, il se montre de plus en plus. Il se cache ou il se montre dans la surabondance. C'est-à-dire que moi, ce qui me dérange au moment de Noël, c'est justement le fait qu'on recherche à tout craint d'avoir plus à manger, plus de fêtes, plus de tout, quoi.
Ouais.
Et moi, si vous voulez, le rapport à la nourriture et au gaspillage, pour moi, c'est central. C'est-à-dire que je me dis, pardon, je vais être vulgaire, on ne peut pas méditer correctement sur l'amplitude de Noël en se faisant péter la sous-ventrière pendant 7 jours. C'est pas possible. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut être un ascète et manger 2 graines de pois chiches avec un verre d'eau et du pain dur. Je dis que Noël, à mon sens, invite à une fête avec un minimum de modération.
Mais c'est vrai, ce qui est toujours gênant et embarrassant. D'ailleurs, c'est très mis en lumière, mesdames, dans les contes, hein, dans les contes traditionnels. L'espèce de combat entre l'orgie, mais bon, les tables, les garnis, etc., et les Noëls opulents, avec la pauvreté de la rue, la tristesse liée à la solitude, qui est très actuelle d'ailleurs. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est vrai que ça peut paraître embarrassant pour nos contemporains, pour nous, enfin, nos contemporains, c'est nous, quoi, nous autour de cette table, nous autres petits galopins de cette planète Terre. Dans le monde occidental, j'entends, effectivement, dans ce monde de consommation, même si on parle de sobriété, même si on parle d'attention au gaspillage, si on dit attention cette année, un Noël plus sobre, etc. Mais on sent que c'est compliqué, quoi, parce que la crèche, c'est sobre. On ne peut pas faire plus sobre que la naissance de Jésus.
C'est sûr.
Et puis on lit des contes qui nous ramènent à l'essentiel. Et puis, tout à coup, il faut faire plein de cadeaux, il faut acheter des choses, il faut manger beaucoup, il faut acheter beaucoup de choses pour préparer, etc. Je suis désolée, le débat devient très philosophique.
Mais oui, mais c'est intéressant. Si je puis me permettre, j'ai quand même envie de dire, gardons-nous de la démagogie. Et je dis ça aussi pour moi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, malheureusement, il y a des gens qui ont moins de chance que nous, que automatiquement il faut faire acte de contrition, comme dans Sous le soleil de Satan, en se mettant le gilet de crin, en se frappant dessus.
Ouais.
Ce que je veux dire, c'est que, moi je dirais ça différemment, c'est avoir ce qu'il faut, le nécessaire pour s'émerveiller de manière exceptionnelle.
Ouais.
Et quand il y en a trop, quand il y en a trop, on ne s'émerveille pas. Voilà. Ouais. C'est garder l'exception.
Parce que je suis désolée, je ne vous coupe pas du tout la chic.
Mais vous avez raison, moi je n'ai pas 8 enfants, moi je suis aussi très intéressée de savoir comment ça se passe avec 8 enfants.
Noël avec 8 enfants, ouais, effectivement.
Sans doute chacun terminé au lit, voilà. Sobriété.
Un pois chiche et du pain dur trempé dans l'huile d'olive, quand même pas.
Non, on va essayer de faire les choses bien. Mais c'est vrai que ça multiplie par 8, le nombre de cadeaux, etc. Et moi j'ai un petit combat là-dessus aussi, parce que c'est un peu mon langage d'amour, les cadeaux. Donc évidemment, j'ai envie de les gâter. C'est vraiment, il y a un paradoxe en effet. Et voilà, pour retrouver cette simplicité et en tout cas essayer de la maintenir. Donc voilà, après ils savent aussi quand ils sont dans une famille nombreuse qu'on ne peut pas dépenser des sommes folles pour chacun et que ça régule aussi d'une certaine manière.
Est-ce que finalement une famille nombreuse n'est pas vecteur d'une prise de conscience plus vaste sur le fait qu'on ne peut pas tout avoir en quantité, car chacun doit avoir sa part, finalement.
Ah oui, c'est une école de générosité, oui.
Ça, c'est formidable, c'est magnifique, ça.
On peut le dire ou pas, ça
Oui, je crois que oui, oui.
Ouais.
Une école, ça veut dire qu'on apprend. Donc, ce n'est pas inné, mais je pense qu'ensuite, c'est un beau cadeau aussi pour la vie.
Et ça se passe bien, en général, le repas de Noël tous les 8, 9... Ah, il y en a peut-être des mariés là-dedans, en plus.
Alors non, notre fille est née fiancée, déjà.
Ah,
mais pas encore mariée.
Donc vous êtes encore à 10 à Noël?
Oui. Enfin, sur les 8, il y a un petit bébé au ciel, donc on est en tout 9. Ah. Voilà. Mais oui, alors on se réjouit. Puis là, on vient de déménager, donc nos 3 aînés sont partis faire leurs études, enfin, ou rester plutôt faire leurs études ici. Donc c'est la fête des retrouvailles déjà, hein, évidemment. Les grands manquent aux petits.
Ah, et alors, grand manque au petit. Vous êtes drôle, je pensais que vous alliez me dire manque ou pas, manque à la maman.
C'est tellement mignon.
C'est trop mignon de dire ça.
Et je suis sûre que les petits manquent aux grands aussi un peu.
Bah forcément. Surtout si c'est la première coupure. Bah oui, c'est beau ce que vous dites. C'est vrai que Noël est quand même, dans certains cas, encore, vous voyez comme quoi ça existe encore en 2023, les vrais retrouvailles à l'ancienne de Noël. Eh bien, c'est quand même, ça existe encore. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Noël seul, de choses seules, enfin bref. Et c'est un peu triste parfois d'entendre cela, et là, c'est quand même réjouissant. Côté blanche, ça se passe comment? Je suis désolée de rentrer dans votre famille 5 minutes, mais c'est pas du tout ma volonté d'être intrusive. Mais oui, c'est pareil chez vous? C'est une sorte de fête de retrouvailles ou...
Oui, réunion familiale. Alors moi, j'ai 2 enfants, donc de 3 ans et 11 mois.
Ah oui.
Voilà, et puis on
c'est pour ça, oui, congé parental le justifié, effectivement.
Voilà, et du coup, on va aller, cette année, ça tombe de mon côté, donc dans ma famille, retrouver oncle, tante, grands-parents, et goûter le fait d'être ensemble, en fait.
Et la fête de Noël n'est pas une épreuve pour vous, ça reste...
Absolument pas,
non,
pas du tout.
Pour remarquer que vous n'auriez pas écrit ces contes, sinon c'est pas possible.
Et puis surtout, je ne l'aurais pas dit à la radio.
voilà quelqu'un...
L'institutrice se lâche.
Voilà
quelqu'un qui sait vendre.
Jésus, bon.
Non, mais c'est vraiment la joie de se rassembler. Et j'écoutais ce que vous disiez sur les cadeaux. Et je trouvais ça beau que vous parliez du langage de l'amour. Parce que finalement, les cadeaux, plutôt c'est comment j'aime, comment je vais montrer à cette personne que je l'aime et comment je prends le temps. Et c'est pas forcément dans un déballage pas possible. Et pareil pour tout ce qui est le repas. C'est en fait, c'est une fête, Noël. Donc c'est chouette de rester dans cette dimension de fête et que ce soit un repas exceptionnel. Mais c'est pareil, on n'a pas besoin de choses complètement folles pour marquer ce côté repas de fête. Déjà, décorer la table, en fait. Juste ouais. bien décorer la table, en fait. Ça fait déjà rentrer dans la joie de Noël, dans une attention de dire, mais en fait, cette journée est spéciale et on va célébrer ça ensemble.
Moi, j'avais un souvenir à propos de tabler, d'avoir fait une retraite, je ne sais plus où. Et pendant le déjeuner, on nous mettait des en fait, c'était un déjeuner, des repas en silence. On nous mettait des contes de Noël. Des contes de Noël, parce que c'était plutôt à l'époque de Noël. C'était l'hiver, cette retraite spirituelle. Et je me souviens que c'était magique, on s'imaginait des tables, c'était un peu frugal, quoi. Mais du coup, on s'imaginait, quand on racontait dans les contes, parfois, quand on avait des récits de tables extraordinaires, à la festin de Babette, on se dit, ça fait complètement planer. Et c'est vrai que ça nous emmène vraiment, on peut en mettre en bruit de fond, c'est ça que je voulais dire, en fait. On peut mettre un conte, par exemple, le CD de Vincent ou autre, on peut mettre des contes, on peut encore glisser ça dans une chaîne IFI ou je sais pas si... C'est vrai que
Si ça existe encore, Marie.
Comment on fait pour mettre un CD quelque part?
Alors, je vais revenir l'année prochaine pour vous faire un tuto sur comment mettre un CD dans une chaîne IFI. Voilà, je vais devenir le monsieur tuto de Notre-Dame. Voilà. Pour tout ce qui est ringard et qui n'existe quasiment plus, voilà. Selon Marie-Ange de Montesquieu, Vincent Fernel vous prouvera que ça existe encore.
Il n'y a pas que l'application.
Et qu'on peut s'en servir.
Cela dit, on peut aussi vous trouver sur
il y a des QR codes aussi maintenant, vous savez. Moi, je n'y comprends rien, mais dans le livre CD, il y a un QR code. Si vous avez ce qu'il faut sur le machin, vous cliquez sur le truc et le bazar marche. Vous voyez, voilà.
C'est très clair.
Voilà.
C'est très
je pense clair. Que je ne peux pas être plus clair, écoutez, tout de même. Vous voyez, la France doit savoir, la France a besoin de clarté. Voilà.
Et quel est le message? Finalement, j'aurais pu commencer par vous poser la question, mais est-ce qu'il y a quelque chose de profond que vous avez voulu les uns les autres véhiculer dans vos contes respectifs? On va commencer par vous, Isabelle Chevillard. Dans le fabuleux recueil de Noël, finalement, à travers ces petits poèmes légers, en apparence, il y a des messages. Quels sont-ils les principaux messages, au fond, que vous nous apportez, que vous apportez à nos enfants? Attention.
Oui, alors moi, j'ai vraiment eu le désir d'écrire pour transmettre la foi et pour transmettre... on parlait de l'émerveillement tout à l'heure, mais je pense que c'est un lieu qui permet...
Noël, vous voulez dire?
Oui, l'émerveillement qui est dans le conte, c'est un lieu qui permet de désirer plus grand que soi. Et donc un lieu de la rencontre, je pense, avec une intériorité, avec Dieu. Voilà, je pense que le conte peut avoir cette fonction de nourrir la soif du beau, du grand, la soif du sacré. Et pour moi, c'est clairement un désir de transmettre la foi par mes contes.
À travers la nature, à travers l'émerveillement d'ailleurs en général, parce que
je me sers de
la nature, la nature humaine effectivement aussi, oui. Les animaux, le moine, le moineau et le mendiant, là on a tout, la divine, la nourriture aussi, enfin, y a tout quoi, le rêve. Et de votre côté, quels sont au fond les messages, s'il y en avait un ou deux?
Moi j'avais envie de raconter comment Dieu vient dans l'histoire de chacun. Comment Dieu prend la personne telle qu'elle est, avec ses joies, ses fragilités, ses maladies, sa faiblesse, etc. Ses désirs aussi, les désirs de son cœur. Et comment il s'invite dans cette histoire. Et comment il vient agir, en fait. D'une manière qui nous dépasse aussi, qui dépasse chacun. Et d'une manière parfois que l'on n'attend pas. J'avais envie de parler de ces signes aussi, de cette manière toute délicate par laquelle Dieu peut passer, que ce soit par les autres, que ce soit par un chant, par plein de choses.
C'est vrai qu'on appelle ça un miracle de Noël, hein, d'ailleurs.
Oui.
Il y en a chaque année, des miracles de Noël. Vous y croyez, vous, Vincent, au miracle de Noël?
Mais naturellement. Ce n'est pas parce que j'ai un rapport compliqué à Noël, ma chère Marie-Ange, je suis un paria qui ne croit pas en les miracles. Enfin, en plus, maintenant, on est sur RCF, alors que je passe pour un couillon à Notre-Dame, on me connaît, mais pas sur RCF, tout de même. Non, mais c'est ce que, blague à part, ce qu'ont dit ces dames est extrêmement éloquent, et ça rejoint aussi immensément ce que je tente de faire artistiquement, mais c'est surtout ce qui m'intéresse dans ma vie intime, intérieure et personnelle, c'est-à-dire de garder la conscience du supérieur. Voilà, pour moi, le supérieur... que l'on peut apprécier, mais qui nous dépasse quand même, car il nous est supérieur, c'est important. Vous voyez, moi j'ai la chance d'habiter dans un endroit en Île-de-France où il y a des petits moineaux qui viennent tous les jours sur le balcon. Et hier encore, j'avais une journée de relâche, j'ai regardé les petits moineaux pendant 2 heures, 3 heures. C'est incroyable de voir un petit moineau, de voir comment ils interagissent entre eux, comment il y a une cérémonie, une préséance lorsqu'ils mangent chacun à leur tour, comment, avec cette légèreté incroyable, ils réagissent au quart de tour à tout ce qui se passe autour d'eux. Ça, vous voyez, quand je regarde ça, je me dis, Dieu, il est là. Dieu, il a créé ces choses incroyables, si petites, si mignonnes et si intelligentes. Et ces petites choses que nous, êtres humains, avec toute notre grosse machine intérieure, ces petites choses qu'on ne comprend pas. On a juste accès à elles pour les admirer de manière fugace, parce que dès qu'on s'approche, les petits oiseaux y partent. Là, voilà, la conscience du supérieur, elle commence dans l'infiniment petit, le subtil, vous disiez. C'est exactement ça.
Oui. Après, c'est un conte de Noël que vous nous racontez là, finalement.
Eh bien, écoutez, d'ailleurs, je vais l'écrire en rentrant à la maison, n'est-ce pas, pour vous le proposer.
La cérémonie voilà. du petit moineau.
Mais non, mais vous savez, c'est formidable l'observation des petites choses de la nature. Bien sûr, je pourrais vous dire, Marie-Ange, je pourrais vous dire, mais vous savez, lire Marcel Pagnol ou Daudet, c'est mon concours à la supériorité du monde. Sauf que si je vous disais ça, je serais un fiefé menteur, j'y crois pas. Moi, je tente de faire de jolies choses et des choses de qualité pour que les enfants ne deviennent pas des moutons pour les sortir le plus rapidement possible du panurgisme, pour qu'ils aient matière à réfléchir, à rêver et à ne pas se laisser avoir comme un peu les nouvelles générations aujourd'hui qui sont téléguidées. Mais en vérité, ce qui compte pour moi, c'est pas tant d'être le chantre de la vertu et de la spiritualité dans ce que je fais, je ne suis qu'un artiste. Par contre, Vincent, le petit Vincent, quand il regarde les moineaux, là, il est content.
Voilà. Et ben voilà, Vincent Fernandel, merci.
Et je sais, il faut conclure, écoutez, mais il ne faut pas m'inviter,
merci,
Maria.
Merci Isabelle Chevillard et merci à Blanche Collange, vos ouvrages 24 contes autour de la crèche et même pour Blanche et Isabelle Chevillard aux éditions d'Emmanuel, le fabuleux recueil de Noël à glisser sous le sapin. Merci les amis et
merci.
Joyeux Noël.
Merci,
bon
joyeux Noël.
Joyeux Noël.